Première épître de Pierre, chapitre 2. Verset 11. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles, donc humaines, qui font la guerre à l'âme. Donc, toutes les pulsions, les convoitises qui sont en nous, les désirs, etc., font la guerre à l'âme, c'est-à-dire ils font souffrir et ils détruisent l'âme. Et pour ne pas que cette âme soit détruite, il faut se considérer comme un étranger sur la terre, un étranger aux fausses valeurs, un étranger à toutes ces pulsions humaines, à tous ces prétendus rêves humains. Et il faut se considérer comme un voyageur. C'est de mon point de départ, je vais vers Dieu. C'est extrêmement important de savoir cela. Quand vous voyez dans Hébreux, chapitre 11, vous avez l'exemple en Abraham. Dans Hébreux, chapitre 11, c'est ici, bien sûr, un texte qui parle de plusieurs personnes de l'Ancien Testament, mais on va commencer au verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord d'un mer et qu'on ne peut compter. Ce sont les promesses de tous les croyants sauvés par la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, donc le sud de l'Irak, le pays de Shinéar, la Chaldée, s'ils avaient eu en vue la Chaldée d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc nous avons fondamentalement ici une certitude pour ceux qui donnent leur confiance à Dieu, qui a un autre monde meilleur avec Dieu et que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, c'est-à-dire il nous aime même si on a été pécheur, mais on est sauvé par grâce en Jésus. Donc la question 8, où est votre meilleur monde dans vos projets, vos rêves, votre pensée? Voilà une façon de répondre en prenant ce texte. Il y en a bien sûr d'autres. La question numéro 9: que sort-il de votre cœur? Que sort-il de mon cœur? Romains 10. Que sort-il de mon cœur? Romains 10, versets 8 à 17. La parole est près de toi. Donc c'est le Christ. Vivant, parole éternelle, ressuscité. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quand on l'a accepté, il est là, en nous, plus qu'évident. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce Jésus que nous acceptons dans notre cœur et qui nous parle, on lit l'Évangile, et qu'on pense à des choses qu'il nous a enseignées, quand on le loue, on l'adore. Ce Jésus qui nous parle, qui nous conduit, c'est un Jésus tellement vivant et débordant de vie, débordant, qu'il doit sortir de notre bouche, il doit sortir. Notre confiance nous pousse à parler, notre confiance nous pousse à le dire. C'est pour ça que dans Jean chapitre 8, il est mis que celui qui croit en Jésus, de son sein coulent des fleuves d'eau vive. Voilà. Donc ici, Le test d'une vie chrétienne où la vie de Jésus est là et des bornes, c'est ce qui sort de sa bouche. Non plus les dérèglements que nous avons vus dans Marc tout à l'heure, mais ce qui sort de sa bouche. Et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Ben Jésus. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire à plaire à Dieu, à être sous sa bénédiction, à être accueilli et ne pas être refusé. Non seulement on est pardonné à la croix par Jésus, par son sang, mais on est pardonné aussi parce qu'on vit avec Jésus dans notre cœur et qu'il sort de notre cœur pour les autres. C'est un acte de justice normal de Jésus en nous pour les autres. Il veut sauver aussi les autres par nous. Donc c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc ce que je voulais dire, c'est que... Que sort-il de votre cœur? S'il ne sort rien à propos de Jésus de votre cœur, c'est que vous êtes confus. Vous avez la confusion, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus où vous en êtes. Peut-être que vous avez cru tout un temps, vous avez lu la Bible, que vous écoutez, et puis il n'y a rien qui sort. Je vais vous dire une chose, consolez-vous. J'ai connu ça pendant des années, où je n'arrivais jamais à parler de Jésus. Pourtant, je croyais en lui. Il m'est arrivé de surprendre certains de mes enfants qui sont maintenant, qui servent Dieu, et qui, à l'âge de 15-16 ans, 18 ans, je les trouvais en train de pleurer dans la chambre en disant « Je n'ai encore jamais osé parler de Jésus à mes amis. Je n'ai encore jamais osé parler de Jésus dans ma classe. » Je vais vous dire, si vous avez une souffrance à ce propos-là, c'est bon signe. Si vous avez une souffrance et que vous n'arrivez pas encore à parler de Jésus, c'est bon signe. C'est en fait que vous aimez Jésus et que Jésus vous pousse à parler de lui. Mais il viendra un temps où Jésus mettra sa paix en vous, il mettra sa force en vous, et demandez-lui pour pouvoir le faire. Vous le ferez de manière différente, suivant la mesure de la foi que vous avez reçue. Mais Jésus se servira de vous. Si vous êtes dans la confusion, vous ne parlez jamais de Jésus, et que ça ne vous dérange nullement, mais aucun complexe, je balaye ça, c'est que vous ne l'aimez pas. Et qu'il n'y a pas de place dans votre vie pour lui. Il se peut que Dieu attende longtemps encore, quelques années, quelques dizaines d'années, avant de vous rappeler par un événement, par une mort, par disparition d'un ami, des parents, ou des problèmes financiers, je ne sais pas, sentimentaux, et puis que tout d'un coup, vous reveniez à cette vie intérieure avec Jésus-Christ, et que tout d'un coup, vous reconfessez encore une fois vos péchés à Jésus. Et cette fois-ci, vous vous rendez compte que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne va pas vous abandonner, même si vous n'avez pas été fidèle, même si vous n'avez pas été à la hauteur de votre vie chrétienne, telle qu'il l'attendait de vous. Il arrive que nous n'avons pas le courage d'être chrétien, de le paraître. Il arrive que nous n'avons pas la force de l'être. Et les amis, c'est évident que quelque part, Dieu peut parfois le permettre, parce que nous avons encore trop d'orgueil. Il ne faut pas parler de Jésus avec l'orgueil, avec la chair. Il faut partir de l'humiliation. Quand mon cœur sait bien qu'il a besoin de la grâce pour parler de Jésus, alors je suis prêt. Alors je suis prêt. Mais ça, c'est fondamental. Nous ne parlons pas, nous ne témoignons pas de Jésus par la chair. Il n'est pas question de donner un témoignage par la chair, les amis. Ça ne marche pas. Dieu ne l'a jamais voulu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a voulu. Rappelez-vous le verset que je vous ai lu l'autre fois, Philippiens 3, verset 3, les circoncis, c'est-à-dire ceux dont le cœur est changé. Hein. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte, donc notre adoration, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit divin, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, donc en l'humain, en nous-mêmes. point de confiance en nous-mêmes, simplement une grande confiance en Jésus. Donc parfois, le désert spirituel, le désert même affectif pour Dieu, que nous pouvons vivre parfois pendant des années pour Jésus, qui peut durer, un grand désert spirituel, nous prépare à recevoir la grâce. Nous prépare à recevoir la grâce. Et je vous le dis franchement, il est bon de prier les uns pour les autres. Il est bon de prier pour ceux qui ont cru et qui parfois n'arrivent pas à mener leur vie chrétienne. Mais ce qui est important, c'est de ne pas les juger. C'est de prier pour eux. Et surtout, de croire à l'autorité de la grâce, à la grandeur de la grâce. Dieu est grand. S'il a appelé quelqu'un et que cette personne n'est plus fidèle à lui, lui, il est fidèle. Il ne reniera pas cette personne-là. Il viendra la rappeler. Rappelez-vous ce qui est arrivé dans Jean chapitre 21 avec les apôtres. Il a été les retrouver au bord du lac. Et puis, Pierre, qui l'avait trahi publiquement, il lui a dit « M'aimes-tu ?» trois fois. Finalement, Pierre a dit « Oui, je t'aime. » Et il l'a servi. Donc, c'est l'exemple même de la patience de Dieu, de Jésus avec nous. Alors, cette question 9 est très importante. Que sort-il de votre cœur ? Ce n'est pas forcément automatique. Hein. On ne fait pas des exploits comme ça, spirituels, et on n'est pas super chrétien d'un seul coup. Des fois, il faut attendre longtemps. C'est un accouchement très long pour certains. C'est une césarienne. Il faut les forceps. C'est Dieu qui a les forceps, qui fait la césarienne. Nous sommes tous dans une période d'accouchement pour être réellement un enfant de Dieu. La question numéro 10, acceptez-vous les décisions divines ? Aha ! Les décisions divines ! Oula ! Romains chapitre 9. Acceptez-vous les décisions divines ? Un chrétien peut dire oh, « j'aime bien, je suis passionné par telle fille, il faut vraiment que ce soit ma femme, ce soit vraiment ma femme. » Il bouillonne et il finit par dire à la fille « mais c'est Dieu qui m'a poussé vers ça. » Et si Dieu lui a montré déjà dans son cœur que ce n'était pas vrai. Et la même chose pour acheter une voiture, pour acheter une maison. Je bouillonne, je désire cette maison, je désire ce diplôme, ce métier. Et dans mon fort intérieur, dans mon cœur, je sais que Dieu ne veut pas ça. Mais je m'acharne dans l'autre sens. Est-ce que nous acceptons les décisions divines ? Que parfois, il nous communique, mais que nous ne voulons pas accepter. Vous savez, je parle comme ça. Toutes ces questions que j'ai préparées, c'est parce qu'elles se reposent sur mon expérience personnelle. Et surtout les contacts, les visites que je fais, j'écoute les personnes. C'est basé sur du vécu. Et c'est tout à fait de l'ordre biblique. Acceptez-vous les décisions divines. Romains chapitre 9, verset 14. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Il y a eu 9 plaies d'Égypte dans lesquelles Pharaon a refusé de donner la liberté aux Hébreux et d'honorer le Dieu d'Israël, de Moïse. Et puis après, il y a eu des autres plaies où chaque fois, là, c'est plus Pharaon qui refuse, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Ça veut dire quoi ? Il y a toujours un temps dans lequel nous sommes sollicités par Dieu pour entendre son appel, pour lui répondre, pour faire sa volonté. Et puis, à force de jouer avec Dieu, il y a un temps où c'est Dieu qui endurcit mon cœur. C'est Dieu qui ne veut pas. Et il faut savoir ceci. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux avec lui. Dieu est sérieux avec ceux qui l'écoutent, qui perçoivent ses appels. On ne perçoit peut-être pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième. Mais pensez à Pharaon, il y a eu 9 appels. Le 9e, il pouvait encore répondre. Et moi, je connais pas mal de personnes, vous, parmi vous et d'autres, qui ont répondu au 7e, 8e, 9e appel. D'autres ont répondu au 2e appel, premier. Donc, Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse d'argile un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Il y a des vases pour mettre des fleurs, du vin, et des vases pour faire pipi dedans. Hein ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ? Aujourd'hui, il y a énormément de dirigeants dans ce monde qui ont des pouvoirs énormes, énormes, et qui sont des vases de perdition. Vers le 22 janvier, à Davos, en Suisse, il y a eu une réunion. Il y avait 800 personnes parmi les plus riches du monde. Et ils venaient tous, ces personnes venaient avec leur jet privé, et des gardes du corps. Pour 800 personnes, il y a eu 2400 vols de jets privés. Ça veut dire qu'ils emmenaient avec eux toute une série de gardes du corps, etc., peut-être d'ordinateurs ou je ne sais pas quoi, et puis ils retournaient. 2400 vols de jets privés pour 800 personnes à Davos. Et pourquoi les gens les plus riches se réunissent à Davos ? Pour prendre des décisions. À eux appartiennent plus de la moitié de toutes les richesses du monde. Et ils s'asseyent sur la tête des pauvres. Ils montent sur les épaules à tout le monde. Et ils appauvrissent le monde. Croyez-vous que Dieu va supporter ça longtemps ? Il y a eu une idée géniale, c'était de créer la Société des Nations, qui est devenue ensuite l'ONU. L'ONU, vers les années 50-60, pouvait devenir un organisme international à caractère humain et à caractère convivial, démocratique. Et progressivement, plus de 2000 nations ont eu un droit de vote, à part égale. Évidemment, à l'entour de la table, il y a des gens, au moins une quinzaine de nations, au départ 7-8, qui ne voulaient pas ça, qui ont accepté tant bien que mal. Eh bien, on a laissé l'ONU, on a été aux réunions, on a fait des beaux discours, mais on a créé la réunion en parallèle, là où on prenait les décisions, à l'insu de l'ONU, à l'insu de tous. On prenait les décisions majeures pour l'humanité, c'était le G7, le groupe des 7, et puis le groupe des G20, et puis c'est Davos. Ça, c'est des vases de colère, parce qu'il n'y a plus de respect des autres. Mais ils ont été prévenus. Ils voient bien, par tout ce qui se passe sur la Terre, que ça ne va pas. Ils voient bien que la façon dont ils dirigent le monde et dont ils pompent le sang, il n'y a rien qui va. Au niveau écologique, au niveau politique, au niveau santé, etc. Ils le voient. Ils ont des scientifiques, ils ont des conseillers, ils savent tout. Ce sont des vases préparés d'avance pour la colère de Dieu. Et il y a aussi les vases de miséricorde préparés d'avance. Il y a tous ceux qui crient à Dieu, qui attendent une autre cité, un autre monde, juste, sans toutes ces injustices, sans toutes ces exactions, ces mensonges. Ça, c'est le monde d'Abraham. Ça, c'est le monde de Jésus-Christ. C'est le monde vers lequel nous tournons le regard. que Dieu donnera à l'humanité. Il le donnera, c'est le royaume de Christ. Donc ce texte est très important. Les décisions divines sont primordiales. Le monde n'est pas dans les mains, en tout cas il l'est provisoirement, pour une certaine part des choses, mais le monde finalement n'est pas dans les mains des hommes. Dieu prend patience, mais un jour c'est fini. Lisons la première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5. Versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Cette cité céleste, cette résurrection de notre corps et notre âme, nous la possédons par la foi. Nous la possédons, c'est un trésor qui est certifié. Jésus s'est engagé à nous le donner. Dieu s'est engagé par Jésus à nous le donner. Et nous avons cette assurance que nous pouvons attendre ce monde qui nous a réservé à nous qui comprenons que ce monde est perdu par son péché et qui ne voulons pas être complices et y adhérer. Alors, pour le chrétien aussi, au verset 19, verset 18 et 19, nous savons que quiconque est né de Dieu, et rappelez-vous comment on est né de Dieu, par la puissance de la parole de Christ, hein, par son pouvoir, pas par notre vouloir. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, c'est-à-dire ne met pas en pratique le péché, délibérément pour offenser Dieu. Il peut pécher, mais ce qu'il y a, ce n'est pas délibérément pour rompre avec Dieu. C'est sa vieille nature qui revient de temps en temps, qui rechute, mais ce n'est pas parce qu'on a une grippe ou une bronchite, une pneumonie, c'est-à-dire un certain type de péché, qu'on est mort, on est séparé de Dieu. Non, il y a des péchés qui ne nous séparent pas de Dieu. Parce que nous sommes attachés à Dieu, et nous croyons toujours. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc il se surveille, l'IPO, il se surveille, il surveille et il examine ce qu'il fait pour ne pas tomber dans les péchés qui offensent Dieu et qui risquent de ruiner la relation avec lui, de l'offenser. Et le malin ne le touche pas. Là, j'insiste là-dessus, Satan a beaucoup d'autorité dans ce monde, mais il n'en a pas sur le vrai enfant de Dieu. Il faut absolument être convaincu de cela. Le vrai enfant de Dieu ne peut jamais être possédé. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Dieu, donc. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, donc de se faire séduire, etc., attirer de nouveau vers d'autres choses. Voilà, c'est très important. La 11e question est ceci. Où est la vérité de chaque instant pour vous? À chaque instant, nous ne vivons pas toujours avec la Bible devant nous, nous ne vivons pas toujours en étant au culte ou en étant dans une réunion chrétienne. Il y a de multiples instants où nous ne sommes pas avec d'autres chrétiens, même pas des fois avec une Bible en main ou à portée de la main. Alors, où est la vérité de chacun de nous à chaque instant? À chaque instant, c'est-à-dire tout le temps. Jean 18, 31. Où est la vérité? La vérité serait-elle simplement là, quand je commence à prier, quand je suis avec d'autres pour prier, que je suis en train de lire ma Bible, que je suis bien dans ma peau avec le Seigneur? Où est la vérité de chaque instant pour nous? Jean chapitre 18, verset 31. Pilate leur dit, je me suis trompé, les amis. C'est Jean 14, verset 16. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Ben oui, parce que dans ce monde, c'est pas toujours très, très joyeux pour un chrétien. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il se rend en vous. Donc l'esprit de vérité est en nous. Ce qui est très important, les amis, c'est de savoir que même si à certains moments j'ai l'impression de ne pas être tout à fait en contact avec Dieu et tout, l'Esprit Saint est en moi, l'esprit de vérité est en moi, je l'ai reçu. Et lui, il me connaît, il me voit, et il parle à Dieu. Dans Romains 8, il pousse des cris ineffables vers Dieu, pour moi. Il est mon lien avec le Père du Ciel, un lien éternel et irréductible, qu'on ne pourra pas briser. Et je voudrais dire ceci, quand on est dans une assemblée, dans un groupe chrétien, il peut arriver qu'un chrétien tombe bien bas, ou renie sa vie chrétienne tout un temps, fasse même des choses graves. Mais, ou parfois, simplement, il est toujours là, mais il est mou, il est tiède, etc. Ou l'autre, il parle tout le temps, il se vante, il est orgueilleux, mais en fin de compte, il n'en fait pas plus qu'un autre. Tous ces péchés-là viennent de la chair, évidemment. Mais si la personne a accepté vraiment Jésus, l'Esprit Saint est en lui. Alors, ce qu'il faut dans une église, c'est ne pas juger la personne, c'est pas la condamner, c'est de faire confiance à l'œuvre de l'Esprit Saint, à Dieu qui est venu dans sa vie. C'est demander à Dieu et intercéder pour que Dieu fasse grâce à ce chrétien, à ce frère, à cette sœur, et le relève, l'éclaire. C'est pour ça que je dis qu'à tout instant, la vérité est dans nos vies. Mais ce qui est assis, à quel moment dans notre conscience nous perdons la perception de la vérité de l'Esprit Saint qui est en nous? Que les autres prient, intercèdent. C'est cela la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que la vérité est Dieu et que la vérité est plus forte que mes œuvres de chair et plus forte que parfois mes mensonges même envers Dieu. Et une église, c'est dans sa richesse qu'elle se construit. Sa richesse, c'est la compétence du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. Et tout cela se fait dans l'humilité. Nous sommes tous des pécheurs, tous. Nous sommes tous en haut, à un moment donné, en bas ou au milieu. Et nous avons tous besoin de la prière des autres, tous besoin du non-jugement des autres. Et ce qui est bon aussi, c'est d'exercer son amour, la patience, et ne pas laisser tomber quelqu'un. Ça, c'est pas facile. On s'intéressera toujours plus facilement à quelqu'un qui est chrétien et engagé, etc., et qui nous apporte quelque chose, qu'un chrétien qui n'apporte plus rien, et dont on pense ben, il n'est plus chrétien. Ça, c'est un jugement. Si l'Esprit Saint est en lui, je n'ai pas à juger, je n'ai pas à dire ce n'est pas un chrétien. Parce que Christ l'a scellé et l'a attaché à lui par le Saint-Esprit. Donc, la prière, l'amour, la charité, rendre des visites, et se mettre à genoux, autant qu'il faut pour un frère, une sœur qui est peut-être dégringolé. Donc, où est la vérité de chaque instant pour nous? Elle est là, en nous, par le Saint-Esprit. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit, en tant que chrétiens. Il faut faire attention, les amis, la richesse de l'Église, c'est d'avoir ce regard-là. Un regard plus profond que les apparences. Je lis dans, et j'arrête après, Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, c'est toujours le Consolateur, le Protecteur. Mais oui, parce que dans ce monde, quelqu'un qui aime Jésus, il souffre. Hein. Évidemment, il ne trouve pas sur cette terre ce qu'il attend. Hein. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ça, c'est après la mort et la résurrection de Jésus, l'Esprit Saint est venu. Il y a eu la Pentecôte. Hein. Donc ça, c'est une promesse que Jésus fait avant sa mort, mais elle est réalisée. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, Aion, les choses à venir, c'est le monde à venir. Ce monde, cette cité céleste, il annoncera en mon cœur cette cité céleste. Il me branchera dessus. Il portera mon regard sur la cité céleste et pas sur ce monde qui se dégrade. Et il conduit ma vie dans sa vérité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant Dieu, c'est Dieu donc qui conduit le chrétien. Voilà. Donc je réponds à cette question 11. Où est la vérité de chaque instant pour nous chrétiens? Où est la vérité? Elle est éternelle. Sa présence est éternelle. Même si sentimentalement, de façon sensible, je ne le perçois pas, la présence du Saint-Esprit est en moi. Ce n'est pas une question de sensibilité, de sentimentalité. C'est une question objective. Dieu a déposé en moi le Saint-Esprit et c'est l'Esprit de vérité. Voilà, nous aborderons bien sûr des autres questions. J'ai de nombreuses questions comme ça pour éveiller les réflexions, éveiller la recherche pour les autres fois. À dimanche, chers amis, et que Jésus soit avec vous. Amen.